Alors ce matin, vous pouvez chercher Ésaïe 36. Alors je sais, les enfants, vous restez avec nous ce matin. Donc l'envol se passait ici, pour les grands et les petits. Et je pense que ce matin, vous allez aimer l'histoire, les enfants, parce que dans le livre d'Ésaïe, on va dire que c'est le moment le plus dramatique, le plus intense de tout ce livre. Il y a une grande armée méchante qui arrive sur Jérusalem. Cette armée méchante a déjà pris toutes les autres villes du pays. Et maintenant, cette armée est aux portes de la ville de Jérusalem. Il y a 185 000 soldats qui sont sur le point de raser et de détruire la ville de Jérusalem. Et voilà, donc voilà, on va lire maintenant ce qui se passe quand cette grande armée méchante est autour de Jérusalem. Si vous voyez une armée de 185 000 soldats autour de votre maison, vous aurez certainement très peur aussi. Donc, nous allons lire et je vous demande d'écouter notamment le discours d'un homme qui s'appelle Rabshaké. Alors, ce n'est pas un rappeur, Rabshaké, c'est le général de l'armée assyrienne et c'est lui qui va parler. Alors, vous allez vous méfier un peu de son discours, hein, ce Rabshaké. Attention, Ésaïe 36. La 14e année du roi Ézéchias. Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya à Lachish, à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et qui perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tout ce qui se confie en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet autel ?» Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi des Syries, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna, Joas, Dieu, Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera sa vigne, de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun dans son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvarim? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Puis, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Voilà, ce Rabshakeh, c'est... attention. Vous voyez que la stratégie de l'armée assyrienne avec ce général Rabshakeh, c'est de miner la morale et la confiance du peuple. Ce Rabshakeh, il va tout faire pour déconseiller la foi et la confiance en Dieu. Et il dit, ne laissez pas Ézéchias vous convaincre de faire confiance en l'Éternel. Et puis, il est assez rusé dans ce discours, il essaie de faire très peur au peuple pour qu'ils perdent leur confiance en Dieu, et ainsi, c'est plus facile pour lui de prendre la ville. Mais Ézéchias, notamment dans le chapitre suivant, il va faire le bon choix de se confier en Dieu et d'entraîner tout le peuple dans la confiance. Ézéchias, il fait tout le contraire de son père Akaz, qui s'est retrouvé exactement dans la même situation. D'ailleurs, Ésaïe souligne en verset 2 que la crise de foi de son père Akaz s'est déroulée exactement au même endroit, c'est-à-dire sur l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ de Foulon, comme verset 2 le dit. Eh bien, Akaz, c'était là où lui aussi avait peur, mais lui aussi a décidé de ne pas se confier en Dieu. Mais Ézéchias, lui, il se confie en l'Éternel. C'est la belle et grande victoire de ces chapitres 36 et 36. Pour aussi nous encourager à la confiance face aux problèmes, aux défis, aux peurs de notre vie, beaucoup disent que Dieu n'est pas une solution valable de nos jours. On nous déconseille la confiance en Dieu. Nous vivons une époque, plus que jamais, qui veut miner notre foi, qui veut déconseiller la foi, la confiance, comme une solution, une démarche devant les crises, les peurs, les inquiétudes, les problèmes de notre monde. Mais malgré les voix qui déconseillent la foi, nous allons voir ce matin que la confiance en Dieu reste la meilleure option. Et nous voulons encore faire comme Ézéchias et vraiment nous confier en Dieu. Alors ce matin, voyons 5 manières que l'ennemi essaie de miner notre foi. Ça va nous aider à lui résister un peu mieux, à savoir reconnaître les ruses et les mensonges. Donc quand on nous déconseille la foi, la confiance en Dieu, souvent c'est par ces manières. Tout d'abord, on dit que c'est parce que c'est inefficace, c'est imprudent de placer notre confiance en Dieu. Ce sont que des paroles en l'air. Vous voyez ça, c'était la première chose qu'il dit en versets 4 et 5. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies, verset 5? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Vous voyez, Rabshakeh dit à Ézéchias, au peuple, cette confiance que vous avez, cette foi que vous avez, ce ne sont que des paroles en l'air. La foi en Dieu, encore beaucoup le disent, c'est bien pour toi, mais c'est creux, c'est vide, c'est que des belles pensées, c'est que des vœux pieux. Quand tu pries, ce ne sont que des paroles en l'air. Quand tu lis ta Bible, ces paroles-là, c'est quelqu'un qui a écrit ça, mais ce sont des paroles en l'air. La confiance ne peut pas concurrencer de nos jours la médecine, la science, la technologie, l'argent pour nous sauver, pour nous rendre heureux, ce que beaucoup vont nous dire. Selon Rabshakeh, ce n'est pas prudent, ce n'est pas sage de croire en Dieu et en sa parole. Il dit, il faut pour la guerre, il faut la force, il faut la prudence. C'est sûr, des fois, il y a une prudence qui vient de la foi, mais des fois, il y a une prudence qui vient de l'incrédulité, comme celle que conseille Rabshakeh. Donc, la confiance en Dieu est déconseillée parce que beaucoup disent que de nos jours, c'est creux, c'est inefficace, c'est imprudent. Une autre manière qu'on va essayer de nous déconseiller la foi, c'est par des accusations et des reproches, certaines vraies, certaines fausses. C'est ce que Rabshakeh poursuit son discours en verset 6, il dit, quelle est cette confiance? Eh bien, voici verset 6, tu l'as placée dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Il dit, quelle bêtise d'avoir placé ta confiance dans l'Égypte en Pharaon, parce que tout au long de ce livre, l'Égypte est là, beaucoup pensent que l'Égypte pourrait aider à protéger Israël de la Syrie. Alors, Rabshakeh dit, tu as placé ta confiance en Égypte, c'est stupide ça. Eh bien, quelque part c'est vrai ce que dit Rabshakeh. D'ailleurs, Ésaïe, tout au long de ce livre, a prophétisé et a annoncé au peuple qu'il ne fallait pas placer leur confiance en Égypte, et pourtant beaucoup des responsables, le peuple était tenté de le faire, certains l'ont fait. Alors, le reproche, l'accusation que fait Rabshaké, c'est exactement celle que faisait Ésaïe. Ce peuple avait mal fait de placer leur confiance en Égypte et Dieu pourrait leur reprocher la même chose. Ou encore, un peu plus tard, en verset 10, Rabshaké dit « D'ailleurs, c'est l'Éternel. Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit « Monte contre ce pays, détruis-le. » C'est très prétentieux de la part de Rabshaké de dire ça. Il, lui, s'en moque de la volonté de Dieu. Il n'a pas une relation avec l'Éternel. Mais ce qu'il dit n'est pas entièrement faux. C'est vrai que Ésaïe lui-même avait dit « Attention, le jugement va venir contre un peuple rebelle et ce jugement va prendre la forme d'une armée assyrienne qui va envahir le pays. » Donc ce que Rabshaké dit, c'est « Vous méritez la punition de Dieu, vous méritez le jugement, Dieu m'a dit de monter et de détruire ce pays. » Ce discours-là n'est pas si différent que celui d'Ésaïe pour inciter le peuple à la repentance. Ici, Rabshaké veut pousser à la peur. Donc, il y a des accusations qui sont vraies. Vous vous êtes confié en Égypte. Ça, c'est une faute. Ça, c'est stupide. Et oui, c'était vrai. Vous méritez la punition de Dieu. C'est pas faux non plus. Et on peut, pour déconseiller notre foi, on peut reprocher aux chrétiens des certaines mauvaises choses, des mauvais comportements. Et ce n'est pas entièrement faux, les reproches, les accusations qu'on peut tendre vers les chrétiens à travers l'histoire. Ou même nous reconnaissons nous-mêmes, des fois nous n'avons pas eu un bon témoignage. En plus, notre ennemi Satan, c'est l'accusateur, il nous accuse avec souvent des accusations qui peuvent être vraies. Regarde, tu n'es pas digne de Dieu. Regarde comment tu t'es comporté. Regarde combien de fois tu as douté de sa parole. Regarde combien de fois tu as placé ta confiance dans d'autres choses. Alors, ça c'est faute grave. Tu mérites la punition de Dieu, il ne va pas te délivrer, toi. Et donc, on nous déconseille la foi ainsi. Mais aussi des accusations fausses. Rabshaké poursuit son discours, et vous avez remarqué, en verset 7, c'est intéressant, il dit, tu penses que l'Éternel va te délivrer? Eh bien, ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Judée et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel, à Jérusalem. Donc Rabshaké, son accusation là, c'est, regarde, Ézéchias, il a détruit tous les hauts lieux, et certainement l'Éternel n'est pas content avec lui. Mais Rabshaké dit ça parce qu'il réfléchit selon les religions païennes. Et dans les religions païennes, il fallait multiplier les idoles, multiplier les hauts lieux. Alors que Dieu a dit, il ne voulait pas ça, il ne voulait pas les hauts lieux sur toutes les collines, il voulait un seul lieu où l'adorer, à Jérusalem, le temple. Et donc, Ézéchias avait bien fait, c'était une réforme biblique d'avoir éradiqué, d'avoir effacé ces hauts lieux et ces endroits d'idolâtrie. Mais Rabshaké, il voit ça avec son regard d'extérieur, et il a certainement fait mal envers son Dieu d'avoir éradiqué ces choses. Donc ça, c'est une accusation, mais elle est entièrement fausse. Il réfléchit d'après une religion païenne. Il ne sait pas que Ézéchias, finalement, a bien fait. Donc Rabshaké montre qu'il fonctionne avec une fausse conception de Dieu, du vrai Dieu de la Bible, et il utilise ça pour essayer d'accuser, de déconseiller la foi. Peut-être aussi pour troubler le peuple, il peut y avoir quelques personnes là qui étaient un peu fâchées, un peu déçues que Ézéchias leur avait supprimé leurs idoles préférées. Et donc quand ils parlent comme ça, les anges, parce qu'on voit qu'ils parlent à tout le public, et certaines peuvent dire, ah, c'est vrai, hein, Ézéchias, je n'étais pas trop content avec cette manière, donc peut-être je ne vais pas l'écouter. Mais tout ça, c'est l'ennemi qui parle. Encore aujourd'hui, peut-être, on peut, en tant que chrétien, on a vu des accusations vraies, souvent aussi des accusations fausses. On va dire que les chrétiens sont intolérants, qui tiennent des valeurs éthiques qui sont complètement démodées. On peut dire qu'ils sont contre le plaisir. Dernièrement, on a vu les évangéliques sont responsables du Covid en France. Tout ça, on écoute tout ça, et puis on ne sait pas comment agir des fois. Ça trouble notre foi. On dit qu'il faut agir. Donc, ça, c'est une manière qu'on cherche à déconseiller notre foi. Rabshaké va continuer par l'insulte. l'insulte et la honte publique. Dans la suite, vous voyez les ministres du roi, ils sont en train de parler avec lui. Et ils disent, est-ce que, s'il te plaît, tu peux parler en langue araméen, pas si fort, comme ça, ça ne trouble pas tout le peuple. Et Rabshakeh fait tout le contraire. Il crie avec sa voix plus forte, il crie dans une langue, apparemment il parle la langue judaïque, et il le fait pour insulter en quelque sorte et faire honte à tout le peuple. Vous avez vu ce qu'il dit là, il crie aux gens sur la muraille. N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Hein, si vous parlez comme ça, les enfants à la maison, vos parents vont vous gronder. C'est dénigrant, c'est insultant. Et Rabshakeh fait exprès de parler comme ça pour troubler le peuple. Et puis il crie de toute sa force que voilà, votre Dieu ne peut pas vous délivrer. Bien sûr, ce n'est jamais agréable d'être traité comme ça, en public. Quelqu'un qui crie de toute sa force contre votre foi, votre Dieu. Peut-être quelqu'un vous a déjà embêté un peu devant les collègues, devant les familles. On sait que vous êtes croyant et donc, lors d'une conversation, hey, « Hé, toi, t'as vu ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi, le croyant ?» Parfois même insultant. Et ça nous trouble. Donc Rabshakeh déconseille la foi parce qu'inefficace et imprudente, par des accusations vraies et fausses, par des insultes, par la honte publique. Aussi, maintenant, il essaie une autre stratégie. Il essaie de les acheter par la séduction. Il dit aux gens, verset 16, « N'écoutez point Ézéchias, car voici par mon roi, le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son viguier, chacun boira de l'eau. » Ah, il dit, voilà, je vais vous donner que des bonnes choses. C'est vrai que je vais vous déporter, vous serez mes esclaves, vous allez tout perdre, mais là, ce serait sympa dans mon pays. Vous pourrez avoir plein de bonnes choses. Par la séduction, vous voyez. Vous aurez encore mieux, là, vous pensez avoir des conforts, mais vous aurez bien plus de confort si vous vous rendez, si vous devenez mes esclaves. Et le monde fonctionne souvent comme ça. Ce monde offre toutes sortes d'avantages, de facilités, de confort, d'honneur. Si on abandonne notre foi, si on cède à la tentation, si on cède au péché. Le péché, d'ailleurs, nous parle souvent comme ça. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et je vous donnerai plein de bonnes choses. Mais souvent, on ne dit pas l'esclavage qui s'ensuit derrière. Et le prix, la perte, le malheur, parce que plus tard, le peuple va être... Ceux qui vont connaître l'exil en Babylone, par exemple, ça va être dur. Donc, la séduction. Et enfin, Rabshakeh termine son discours en disant, « Votre Dieu, il est pareil que tous les autres, il ne peut rien faire. L'Éternel vaut tous les autres dieux impuissants. Votre Dieu, c'est pareil que tous les autres. Votre Dieu ressemble à tous les autres. Votre religion, toutes les religions se ressemblent. » C'est un peu son discours termine. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son Dieu, verset 18, de la main du roi des Syriens? Où sont les dieux de Hamad, d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaim? Tous ces dieux-là n'ont pas délivré leur peuple. Votre Dieu ne va pas vous délivrer. Qu'a-t-il d'exceptionnel chez vous, votre Dieu? L'Éternel, c'est un Dieu parmi d'autres. Et ça encore, on entend ce discours de certains tremblés, certains sont troublés. Toutes les religions sont pareilles, est-ce que tous les dieux se valent? Quand on regarde l'histoire des religions, ils disent tous au moins la même chose, mais les religions n'ont pas forcément apporté des solutions aux problèmes du monde. Encore aujourd'hui, il y a des peurs, il y a des crises, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des tensions. Parfois même les religions empire la situation, tout se ressemble, d'un regard extérieur, tout se ressemble. Et donc, on nous déconseille la foi pour ces raisons-là. Alors, comment répondre à tout ça lorsque la foi nous est déconseillée? Surtout dans une crise, souvent on dit, c'est surtout pas le moment de faire confiance en Dieu. Là, il faut agir, il faut la force, il faut agir autrement, parce que Dieu ne peut rien faire. Mais Ézéchias et le peuple n'ont pas été séduits par ce discours. Ils ne l'ont pas écouté. D'abord, c'est intéressant, ils n'ont rien dit. Verset 21, ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. C'est parfois la meilleure expression de notre foi, face notamment aux insultes, face aux fausses accusations. C'est de se taire, ne rien dire. Ensuite, il y a tout le chapitre 37 que nous n'avons pas lu, mais le chapitre 37, c'est très beau parce que Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait devant ces menaces, devant ces critiques, devant le discours de Rabshaké? Eh bien, il se tourne vers Dieu, il prie, il implore le secours de l'Éternel, il consulte Ésaïe pour avoir la parole de Dieu, donc toutes ces choses que nous pouvons encore faire dans des moments de questionnement, de crise, on peut prier, on peut consulter la parole de l'Éternel. Pour trouver des réponses et pour ne pas être déboussolé par ce genre de critiques ou de reproches. Ces jours-ci, peut-être vous avez vu ça, mais on honore la vie de Ravi Zacharias. C'était un apologète chrétien qui a marqué tant de vies. Il défendait la foi chrétienne quand il était jeune, il était sur le point de se suicider, il était mal à l'hôpital et a entendu ce verset « Parce que je vis ». Vous vivrez aussi, Jésus dit ça à ses disciples, parce que je vis, vous vivrez aussi. Ce verset, cette phrase l'a transformé. Il est devenu un défenseur de la foi chrétienne. C'est un homme très brillant. Il pouvait parler à des intellectuels, à des philosophes, mais aussi à des chrétiens pour fortifier notre foi. Et on est très reconnaissant pour sa vie. Il a aidé toute une génération de chrétiens à répondre aux arguments, comme ceux de Rabshaké. Et sa mission, l'organisation qu'il a commencé avec ça comme devise, c'est aider le penseur à croire et aider le croyant à penser. Aider le penseur à croire et aider le croyant à penser. Pour rappeler que la foi n'est pas contradictoire avec la réflexion, il y a une démarche intelligente et sage dans la foi. Et il a souvent... Lui, il aurait été bien pour répondre à quelqu'un comme Rabshaké avec des bonnes réflexions. Mais par exemple, Rabshaké commence son discours en disant « N'écoutez pas Ésaïe, n'écoutez pas Ézéchias, n'écoutez pas Dieu, ce sont des paroles en l'air. » Tout ça, ce ne sont que des paroles en l'air. On a vu ça, c'est vide votre foi, ce ne sont que des paroles en l'air. Mais si vous creusez un peu, il faut retourner la chose. Le discours de Rabshaké lui-même qualifie de parole en l'air, parce qu'il se trompe par moment, il y a des erreurs dans son discours. Les choses dont lui-même est si sûr ne se sont pas réalisées. Dans le chapitre suivant, lui pensait qu'il allait pouvoir prendre la ville, et bien non, et les circonstances ont changé. Alors que les paroles d'Ésaïe, finalement, ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque nous les étudions encore ce matin. Des fois, il faut, quand les gens nous parlent comme ça, il faut creuser, mais où est la vérité dans tout ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Les accusations, les fausses accusations, quelles sont les réponses à donner quand on creuse? Et si les gens sont honnêtes, intellectuellement honnêtes, ils peuvent trouver des réponses. Et finalement, le seul argument troublant, inquiétant, on va dire insurmontable, ce serait les accusations vraies. Parce que Rabshaké a quand même dit « Votre peuple mérite d'être puni. Je suis là pour ça. » Et Ésaïe avait dit la même chose. Et nous, le constat que oui. Si on commence à nous accuser, savoir tout notre cœur, oui, c'est pas faux. Et Ézéchias, dans sa prière, au chapitre 37, sa prière pour la délivrance, si vous lisez ça, lui-même, on reconnaît une certaine humilité parce qu'il ne dit pas « Seigneur, délivre-nous » parce qu'on a été très sage, très obéissant, très bon. Il dit « Seigneur, peut-être tu veux bien nous délivrer parce qu'on t'a insulté toi pour défendre ton nom, ta réputation. » Mais il ne plaide pas à cause de sa bonté ou ses mérites. Ce qu'il reconnaît que lui-même avait fait des erreurs, il va encore en faire. Et ce peuple, tout au long du livre d'Ésaïe, effectivement mérite la punition. Alors, dans ces arguments, celui qui a du poids, c'est des accusations vraies. Mais regardez ce que Dieu fait. Maintenant, je vous lis le dénouement de toute cette première partie du livre d'Ésaïe. Cet appel, tout au long, cet appel à faire confiance en l'Éternel et pas aux nations autour. Jusque-là, Quelle est la voie à prendre? Quelle confiance? Dans l'Égypte, dans les nations autour ou dans l'Éternel? Et il fallait attendre la délivrance. Et Rabshakeh dit, ne pensez pas que vous pouvez être délivré. Là, on est à vos portes. Il n'y a plus rien que vous pouvez faire. Eh bien, regardez, chapitre 37, verset, je ne lis pas tout ce que Dieu dit, mais Dieu décide d'agir. Et verset 35, il dit, « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Dieu agit, la délivrance est grandiose. Et Dieu dit, je vais délivrer cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Comme Dieu a entendu les prières d'Ézéchias, le roi fidèle, le fils de David, c'est notre espoir aussi. Dieu nous délivre à cause de son nom, à cause de Jésus, qui est lui le roi qui descend de David aussi, le fidèle roi. Dieu ne nous délivre pas parce que nous le méritons. Il nous délivre pour montrer à tous les royaumes de la terre qu'il est le seul Dieu sauveur, comme ça nous a été lu tout à l'heure. Il nous délivre pour montrer qu'il a envoyé Jésus, Jésus est mort, il est ressuscité pour son peuple, de sorte que nul ne peut accuser les élus de Dieu. Tous ces arguments tombent à l'eau quand on a Jésus qui nous défend et qui nous garantit, comme Ézéchias a fait, qui garantit la victoire de son peuple. Alors, peut-être les temps que nous vivons ont-ils miné votre confiance, ont provoqué des inquiétudes, où la confiance en Dieu ne semble pas une solution immédiate, concrète, efficace. Peut-être vous êtes vous-même devenu la voix de Rabshakeh pour votre entourage. Oula, la foi, c'est pas le moment de... Il y a d'autres pistes à suivre pour l'instant. Mais tout au long de ce livre, Ésaïe nous a montré que les autres possibilités sont bien pires. S'appuyer sur l'Égypte pour être déçu, ce n'est pas une solution. Céder à l'Assyrie pour devenir esclave, ce n'est pas une solution. Non, le Dieu des délivrances, le Dieu de la Bible, peut encore agir en faveur de son peuple et nous les délivrer. Alors, plaçons notre confiance dans ce Dieu unique, ce Dieu d'amour, ce Dieu des grandes délivrances qui veut encore sauver son peuple. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, merci encore pour ces moments que nous avons passés ensemble, virtuellement et sur place. Nous te remercions pour cette reprise. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de toi, de ta parole. Nous te prions encore de susciter en nous cette confiance dans tes promesses, cette confiance dans ton salut. C'est vrai que l'heure, des fois, on passe par des moments où l'heure semble critique, les solutions ne se présentent pas, mais donne-nous cette foi dans toi, dans ta parole. Aide-nous à voir à travers les ruses et les arguments de l'ennemi lorsqu'on nous déconseille la foi. Et nous savons que tu peux susciter notre foi et l'amener à perfection pour ta gloire. Merci parce que l'Église, les uns les autres, nous avons ce rôle de nous stimuler à la foi, de nous motiver les uns les autres à la confiance. Et quand l'un est faible et fatigué, a du mal, les autres peuvent l'encourager. Et nous te remercions pour cette possibilité de vivre notre foi ensemble. Merci, que tu sois glorifié par notre Église dans ces temps, comme en tout temps. Donne-nous zèle et anticipation et sagesse pour les jours à venir, cette prudence qui vient de la foi et pas de l'incrédulité. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.